Encore une fois, je suis très serein, sans agressivité ni haine, mais c'est notre devoir envers l'Église de mettre un nom sur ce qu'il est, sans avoir peur, sans avoir honte. Le père Prénat est un pédophile. Peu importe que ce soit hier ou aujourd'hui. Je prie pour que Monseigneur Barbarin ait le courage de dire stop et de combattre ce fléau qui a tant blessé l'Église et ses enfants.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en place pour l'émission.
Ne faites pas de bruit. D'après l'odeur.
On a all to vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Vous savez laquelle ?
On a all to vous. Go away now.
Allez, action !
Action, pourquoi faire ?
Un cardinal de dos s'avance sur un balcon. Il domine une ville, Lyon, le lieu des faits de l'histoire de l'affaire. Raconté dans un film, une fiction basée sur des faits réels, nous indique un carton en préambule. Un film pour raconter le silence de l'Église et finalement la libération de la parole de ses victimes dans l'affaire. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Grâce à Dieu, c'est le titre du film, c'est aussi la première fois que François Ozon se confronte à un sujet d'actualité, précisons-le, en cours de jugement. Un prêtre, le père Bernard Prénat, est accusé d'avoir abusé de plus de 70 scouts dans les années 70-90 à Lyon, et son cardinal actuel, Philippe Barbarin, de ne pas avoir dénoncé ses crimes pédophiles. Bonjour François Martouret.
Bonjour.
C'est vous qui incarnez Barbarin dans ce film. Un rôle, oserais-je dire, sacrément délicat, ou pas d'ailleurs, vous nous direz. Face à vous, dans Grâce à Dieu, des victimes qui, des années plus tard, vont libérer leurs paroles. Bonjour Éric Caravaca.
Bonjour.
Gilles, dans le film, chirurgien lyonnais, est lui aussi agressé sexuellement dans sa jeunesse par le père Prénat. Tout comme votre personnage, celui d'Emmanuel, écorché de la vie après ce grand trauma. Bonjour Swann Harlow.
Bonjour.
Et enfin, celle qui incarne votre mère dans le film, peu de scènes mais remarquable interprétation et présence. Bonjour Josiane Balasco.
Bonjour.
Grand film et donc grand plateau, Grâce à Dieu de François Ozon, sous le coup d'un double référé, sortira-t-il mercredi prochain ? Réponse, lundi. Les sorties de ce mercredi, justement, entre Vice et Un ange, trois premiers films et un grand doc, coproduit par les frères Almodovar, Le silence des morts, c'est parti.
Et à votre avis, combien y a-t-il eu de victimes ? Deux, trois ?
Ah non, beaucoup plus. Des dizaines, voire une centaine. Mais c'est simple, il avait au moins 200 scouts sous sa responsabilité chaque année, donc vous pouvez imaginer.
Je suis horrifié par ce que vous me dites. Et je regrette tellement que le père Prénat ait été incapable de vous dire pardon lors de votre rencontre. Je lui ai dit d'ailleurs. Il prétend que c'est un oubli. Il m'a dit, j'aurais dû lui demander pardon.
Oui. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est pas une repentance, monseigneur. C'est une sanction de l'Église à son encontre. Le père Prénat est un danger pour les enfants. Il a reconnu devant Régine Mère et moi-même être pédophile depuis plusieurs années.
S'il vous plaît, évitez cette expression.
Quoi, quelle expression ?
Ce mot.
Mais c'est pourtant ce qu'il est. Il le reconnaît lui-même.
Oui, mais au sens étymologique du terme, pédophile veut dire aimer les enfants. Et selon notre Seigneur, il faut aimer les enfants. Pas trop, évidemment.
Mais que faut-il dire alors ? Pédosexuel ?
Oui, ça me paraît plus juste.
Dialogue entre le cardinal Barbarin et Alexandre Guérin, incarné par Melville Poupeau dans Grâce à Dieu de François Ozon. Alexandre, catholique pratiquant, marié, cinq enfants, découvre par hasard que le prêtre, le père Prénat, qui a abusé de lui quand il était jeune, officie toujours auprès d'enfants. C'est lui qui se lance le premier dans le combat. Avant de revenir en détail sur le film, question à tous les quatre, je suppose que vous êtes tous au courant de cette affaire, comment ne pas l'être. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'incarner cette histoire à l'écran ? Swann Harlow. Pression, une responsabilité.
Il y a une responsabilité, évidemment, parce que on incarne des gens qui existent, qui sont là, qui ont à peu près notre âge, qui sont en vie. Et ce que ça représente, c'est qu'en fait, c'est une marche supplémentaire à leur combat, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a affaire à un fait divers, même s'il a été très très médiatisé, qu'il y a des documentaires, il y a eu un bouquin et tout ça. Et d'un coup, ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est que d'un coup, une œuvre de cinéma permet peut-être d'un coup de rendre la chose plus universelle et d'aller de sortir du fait divers, en fait, et de rajouter la part d'humanité, de souffrance qu'il y a chez les victimes.
Et de rentrer dans l'intimité des familles, José Malasco. Puisque vous incarnez la mère de Swann.
J'incarne la mère de Swann,
oui.
qui est
qui se sent coupable, qui se sent vraiment coupable de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, parce que son fils est vraiment traumatisé.
Ça, c'est une vraie question, hein, le silence des parents.
Alors, son silence à elle, c'est, je crois qu'elle est sincère en disant qu'elle s'est pas rendue compte, qu'elle ne pouvait pas imaginer. Mais il y a des parents qui ne veulent pas. Enfin, beaucoup de parents
qui, du coup, sont complices.
Ne veulent pas. Là, les parents de Melville Poupeau ne veulent pas.
Non. François Ozon parle, Éric Caravaca, d'une dimension pédagogique à faire passer. Vous avez pris conscience de ça aussi, cette dimension-là?
Oui, certainement. En tous les cas, bon, interpréter ça pour nous aussi, c'est toujours la grande question de... Enfin, pour moi, de se dire que la religion est quand même le côté morbide de la religion. Alors qu'au départ, l'idée du Christ ou l'idée catholique est une idée vivante, quoi. Donc, c'est vrai qu'on peut enseigner aux enfants le côté vivant de la chose et puis aussi leur montrer qu'il y a un côté morbide dans la religion, mais... effectivement, je pense que les enfants pourront voir, enfin les enfants, les adolescents, oui, les enfants pourront voir ça. Mais mon fils a lu le scénario avant moi parce qu'il traînait sur la table.
Qu'est-ce qu'il a dit?
À la page 40, je me suis rendu compte
Il
a 10 ans, il a 10 ans. Et au final, je me suis dit je vais pas lui interdire. On a fini la lecture ensemble et je crois que il était, un enfant de 10 ans peut lire un scénario comme ça. Après, peut-être voir le film aussi, je pense.
Ouais, oui, c'est fou parce que ça peut leur arriver. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de le lire ou de le voir?
Absolument. Et puis, ils partaient en camp, pas scout, mais en Irlande, il était accompagné par ses maîtresses et tout ça. Mais comme ça, au moins, on a pu discuter de ça avant son départ.
Je le disais, votre rôle, François Martouret, celui du cardinal Barbarin, est sacrément délicat quand même. L'homme existe, il est jugé et l'affaire est lourde.
Oui, c'est une responsabilité bizarre d'incarner dans une fiction néanmoins, à partir de faits aussi concrets, aussi réels, et avec un point de vue objectif mais imparable sur cette situation qui traîne depuis des années dans l'Église. Qui d'ailleurs n'est pas spécifique à la France. On voit que partout, en Australie, au Canada, aux États-Unis, partout, le problème de cette sexualité de certains prêtres est bouleversé de façon bouleversante, ignoré ou repoussé. On devrait soigner ces gens, on devrait s'en occuper. La hiérarchie temporise sans arrêt. Il est vrai que ce film tombe à point au moment où ça éclate à peu près partout dans le monde.
Oui, mais quand on joue ça, je suppose qu'en général, on est un peu l'avocat de son rôle quand on est acteur. Comment ça se passe?
On est toujours avocat de son rôle. Donc,
ouais.
Cette personne dont j'incarne la fonction et le rôle est forcément une personne intéressante, passionnante. Son curriculum vitae le prouve d'une certaine façon, mais cette sorte de pression de l'institution, de sa responsabilité vis-à-vis de l'institution, a rendu probablement cette situation précise à Lyon tellement contradictoire qu'il n'a pas réussi à la démêler. Il a même à un moment donné demandé pardon parce qu'il avait eu une mauvaise gouvernance de ce sujet, de ce problème épouvantable, hein, parce que quand même c'est un crime, ce sont des crimes, et alors donc incarné d'une façon artisanale comme le veut notre travail, c'est assez bouleversant d'avoir toujours à défendre un personnage. Et d'ailleurs, le film de François Ozon n'est pas un film à charge. C'est un film qui relate les faits et qui, effectivement, prend la défense des victimes. Mais et donc, ce fameux cardinal, il me fait penser à une phrase de Pessoa, j'ai besoin de vérité et d'un cachet d'aspirine.
C'est presque plus facile, Josiane Balasko, d'entrer en empathie avec un personnage comme le vôtre, comme celui des victimes.
C'est finalement notre couple, enfin le couple qu'on forme avec mon fils, avec Emmanuel Swanarlo, c'est un couple au milieu des bourgeois, finalement. On est les seuls qui ne sont pas de la même classe sociale. Elle, c'est une femme qui est d'origine très modeste. Son fils, vu ce qu'il a subi, est complètement marginalisé. Et elle va se retrouver dans des réunions où il y a des gens qui ont des positions sociales, qui ont et elle va s'en sortir très bien. Elle va aller au-delà de sa timidité.
C'est pas facile d'imposer cette silhouette tout de suite avec une femme avec le poids de la vie sur les épaules. Hein. C'est il faut mais tout de suite la caractériser.
Ben oui, mais je sais pas. Je crois que Ozon m'a choisi et puis m'a dirigé pour ça. Alors je voulais dire à François, c'est quand même Barbarin qui a dit, et d'où est sorti le titre, « Grâce à Dieu, les faits sont prescrits ».
Oui.
Ça lui a échappé. Comment tu défends ton personnage?
D'abord j'hésite, je me rends compte que j'aurais pas dû dire ça. La preuve, c'est que ça a fait des vagues épouvantables. Et alors la seule justification, c'est « Grâce à Dieu ». Peut-être il n'y a plus eu d'acte de pédophilie après 90-91, et donc c'est prescrit à cause de ça.
Mais le film est très précis. Moi, j'ai rencontré une journaliste qui avait couvert, qui couvre l'affaire, et qui m'a dit que c'était d'une rigueur absolue, Éric Caravaca.
Oui, oui. Oui,
ben, il a beaucoup enquêté.
Il a beaucoup enquêté. Il y avait aussi tous les textes qui sont dans le site de la Parole Libérée.
Oui.
Donc tout
l'association
qui est née à la suite de ça, quoi, de la rencontre.
On va écouter, et dont on voit la vie dans le film.
On va justement écouter un extrait à propos de ça, et vous à l'intérieur de cette association et vos raisons d'y entrer notamment.
L'association va s'appeler la Parole Libérée. On dépose les statuts la semaine prochaine chez notre avocate. Je serai président, j'ai le secrétaire et toi, trésorier.
Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai l'impression d'être allé au bout de ma démarche au sein de l'Église. Et je suis pas sûr que vous ayez vraiment besoin de moi.
Bah, évidemment. Si t'avais pas porté plainte, Courtois serait jamais remonté jusqu'à mes parents. T'es à l'origine de tout. On a besoin de toi, de ta voix. Sans toi, y a pas d'association, on n'est pas crédible.
Et avec le boulot incroyable que t'as fait depuis 2 ans, tu peux pas t'arrêter là. En fait, ça m'embête par rapport à mon travail. En plus, je suis consultant éco sur une chaîne télé à Paris et c'est compliqué.
T'es pas obligé de monter en première ligne, hein. Nous, on est là.
Ben oui. Y a pas que ça. Ma femme travaille chez les Lazaristes, ça commence à jaser. En plus, mes enfants sont scolarisés là-bas.
Et tu sais, moi, je suis chirurgien. La moitié de ma clientèle à Lyon est ultra-catho, tradis, soutiennent tous Barbarin à fond, la manif pour tous. Je pense pas que je vais perdre ma clientèle pour ça. Moi, je suis catholique, comme toi. Je fais pas ça contre l'Église, mais pour l'Église.
La nuance est de taille, Éric Caravaca, ça.
Oui.
Dans cette réflexion-là.
Oui, absolument. C'est ce que je... Je pense que ce sont des gens qui ont une éducation catholique très sincère et qui continuent à l'avoir.
Puis il y a le contexte Lyon, qui est quand même une ville très traditionnelle, hein, très conservatrice de l'Église. Vous avez tourné là-bas d'ailleurs?
Seulement les extérieurs. On a passé une semaine là-bas en fait. Tous les intérieurs d'église ont été tournés en Belgique et au Luxembourg, parce que il aurait fallu demander l'autorisation au diocèse de Lyon qui est tenu par notre cher cardinal Barbarin. Donc ils n'ont même pas essayé, évidemment. On a fait tous les plans extérieurs de rue dans Lyon, évidemment sous un faux titre, avec un faux synopsis. Oui, trois quarantenaires qui se retrouvent et font le point sur leur vie sentimentale et professionnelle. Le film s'appelait Alexandre.
Ah oui.
Bah oui, mais en même temps, bon, évidemment, ça servait à rien.
On a eu un scénar qui s'appelait Alexandre.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et sur Allociné, il y avait un faux pitch. Bah, il fallait quand même avancer un peu couvert, oui.
Il y a eu une avant-première là-bas, à Lyon.
Il y a eu une avant-première là-bas, trois séances, un huissier de justice dans chaque salle.
Pourquoi
en lien avec ce double référé qui doit tomber lundi, pour récupérer de la matière, parce que voilà, ils se débattent là.
Et il y a eu des débats, vous, par exemple Éric Caravaca, vous avez été dans vos premières. Comment réagissent les gens après le...
On était à Rouen, qui est aussi une ville qui est divisée, mais il y a une grande partie de Rouennaise qui est très bourgeoise et très très catholique aussi. Toute la rive droite. Les gens étaient incroyablement en empathie avec cette histoire. Et puis les gens se dévoilent. C'est comme, je me souviens de la sortie du film Festen. Tout le monde parlait de
l'inceste.
De l'inceste. Mmh. Et là, c'est exactement pareil. On a eu une standing ovation.
C'est le seul qui a eu une standing ovation. Moi, j'ai fait plusieurs villes, j'ai jamais eu de standing, mais bon. Caravaca, c'est voilà.
À Rouen, et les gens étaient absolument, les questions n'en finissaient plus. Voilà. Il y avait beaucoup, beaucoup de questions.
Quel type de questions les gens posent alors, les spectateurs?
C'est très lié à eux-mêmes aussi. Et puis, il y a des spectateurs qui aussi, qui aussi sont très émus, et on sent très bien que ils ont été abusés dans leur jeunesse. Et ça, la plupart ne le disent pas, mais on sent dans la voix de certains que évidemment c'est ça. Et d'ailleurs, on était avec Alexandre, qui est un des membres de l'association.
Incarné par Melville Poupeau dans le film.
Incarné, ouais. Très bien incarné par Melville d'ailleurs. Mmh. Et lui reconnaît aussi tout de suite les personnes qui ont été agressées, hein. et qui ne le disent pas, mais qui posent les questions. Enfin, comme un psychanalyste, on arrive à savoir qu'il y a une faille et que derrière ça, il y a une sorte de blessure terrible.
C'est-à-dire que le film est sur la libération de la parole, et en fait, on se rend compte que immédiatement, il ouvre sur la libération de la parole des gens qui sont là. Quoi. C'est assez incroyable ça.
François Martin. Ce que je veux dire, c'est que le film. C'est quand on le voit en tant que spectateur, sans parti pris, c'est une quête. C'est-à-dire, ça se suit comme une quête et une enquête. Est-ce que ces personnages vont arriver à leur fin? Est-ce qu'ils vont arriver à faire éclater la vérité? Est-ce qu'ils vont arriver à poursuivre leurs prédateurs? Et ça, c'est passionnant. Après, il y a toute l'émotion qu'on peut ressentir en fonction de ce qu'on a vécu. Mais déjà, on voit un film qui se suit comme un... Je dirais pas un thriller psychologique, mais enfin, je veux dire, presque.
À l'origine, François voulait faire un documentaire, d'ailleurs. Ouais. Donc il y a la part enquête qui est bien là, quoi.
Mais étonnamment aussi, à part ce collage à la réalité, par exemple, tout ce que dit le cardinal Barbarin dans le film, ce sont des paroles publiques. Je n'ai pas de dialogue inventé. Ce personnage, cette personne qui se débat entre sa foi réelle, son combat réel et ses convictions, et puis cette chose absolument atroce qui est là, ce déni, ce déni de ces crimes, de ce fléau, disons, à l'intérieur d'une institution qui prêche l'amour et la fraternité, c'est une chose que peut-être ce film, qui n'est justement bien au-delà du documentaire, c'est formidable. Quand je l'ai vu, je vois un vrai film, c'est du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a la part d'émotion très grande, la part d'intelligence et de regard.
Et de rigueur dans l'enquête aussi.
Et de rigueur dans l'enquête. Alors il y a les deux mêlés, ce qui est très très réussi pour moi. Et bref, essayer d'arriver à faire cesser cette hypocrisie sous prétexte de la défense d'une institution. Il semble que, par exemple, le pape précédent et celui-là aient donné des consignes générales, mais qui ne sont pas suivies des faits. C'était la révolte de la parole libérée, justement. On dit une chose et on ne le fait pas, mais c'est assez fréquent en politique aussi. Et donc, oui, il est temps que que ces gens soient soignés ou soient interpellés, ou les deux, mais c'est insupportable, disons, que continuent ces dénis.
Ce qui est moins fréquent, c'est qu'un film parle de ça, justement, en plein cœur de l'enquête, Laurent.
Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça vous pose un problème d'être autant impliqué dans un processus judiciaire avec voilà une décision de justice qu'on attend, qui risque peut-être de non pas de censurer le film mais de reporter sa sortie. On en est là. Hein, quand même, personne ne veut, heureusement en France en 2019, interdire un film. Mais est-ce que ça vous pose problème cette dimension-là en tant qu'acteur? Est-ce que vous le ressentez comme une atteinte à votre, je sais pas, à votre métier, à la liberté?
À notre métier, évidemment pas, mais quelque chose de totalement indécent, en fait, là-dedans. Il y a un moment, on a envie de dire, arrêtez, là, on n'a plus envie de vous entendre. C'est quand même indécent, moi, je trouve. Et au bout d'un moment, ça fait mal au ventre et c'est fatigant. Après, le film, il n'a pas été fait dans ce but-là, puisque les procès devaient avoir lieu en 2018. Donc, les procès sont repoussés. Bon, ça, c'est la justice française. Après, est-ce qu'on attend vraiment qu'ils meurent pour les juger? Je sais pas. Mais le film est seulement... Ils appellent à le reporter, non pas à l'empêcher, mais à le reporter à la suite du procès de Prena. Sauf qu'il n'y a pas de date pour ce procès. Donc
on dit fin de l'année.
On dit fin de l'année, mais d'abord, il devait déjà avoir lieu en début 2018. En tout cas, l'idée de François Ozon, c'était pas de s'inscrire dans l'actualité, du tout.
Et dans le calendrier judiciaire.
Voilà, mais dans l'intimité de ses victimes, justement.
Bien sûr, et encore une fois, c'est pas un film à charge, c'est un film qui dénonce l'institution, et c'est pour ça aussi, je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est que aussi la communauté catholique peut se saisir de ce film, et elle le fait, on l'a vu en avant-première, parce qu'elles ne se sont pas jugées, au contraire, c'est l'occasion pour eux de changer quelque chose, de bouleverser quelque chose sur un non-dit qui est là depuis trop longtemps, quoi.
Oui, puis je trouve que la preuve de tout ça, c'est la distance aussi à laquelle se place François, parce que quand même, il y a une... ce qui me touche moi beaucoup dans ce film, c'est il s'est mis à la bonne distance, je trouve, pour montrer ses faits sans les juger. Je trouve ça admirable dans sa mise en scène.
Autant les deux premiers personnages du film, Alexandre et François, notamment incarnés par Denis Ménochet, sont issus de milieux plutôt aisés, installés, autant le vôtre, Swann Arlo, donc Emmanuel, n'est pas autant intégré socialement et souffre même dans sa chair. On écoute un extrait avec lui.
Depuis, j'ai compris pourquoi j'ai raté mes études, pourquoi je suis instable dans ma vie professionnelle, affective, toujours en mode survie.
Mes zèbres, c'est-à-dire ?
C'est une expression qu'on utilise pour les surdoués. C'est parce que j'ai un QI de plus de 140. Le zèbre, en fait, c'est un animal qui est trop intelligent pour s'adapter. Bon, l'intelligence n'a jamais rendu personne heureux.
Et Prena, c'était quand ?
De 88 à 91. Ça fait 25 ans. Et j'attends depuis toujours ce moment. Que quelqu'un parle, que je puisse enfin tout raconter moi aussi.
Tu te fais accompagner ?
Comment ça ?
Ben, je sais pas, tu vois un psy, ça peut aider. Hein.
Ah non, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait thérapie, hypnose, atelier de danse soufi.
Ah bon ?
Non, le seul truc en fait qui m'aide, c'est le sport.
Je comprends. Hein.
Ça me vide la tête. En tout cas, moi je suis tout cœur avec vous. Je vais vous aider dans l'association pour que Prena aille en prison, parce qu'il faut qu'il paye toutes les saloperies qu'il a faites.
Swann Arlo, on a l'impression qu'au-delà de votre rôle, vous étiez énormément touché par ce rôle et par cette histoire. Presque plus que les autres, bizarrement, parce que il y a une révolte dans votre personnage qui est folle, quoi.
Oui, après c'est écrit comme ça. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir été plus touché, mais en fait, c'est de toute façon la lecture de ce scénario et donc de cette histoire, hein, puisque ça colle vraiment à la réalité. C'est bouleversant. Et c'est bouleversant pour tout le monde, et à la fois pour Melville, pour Denis, on a tous été bouleversés par cette histoire, et Melville dit souvent ça, il dit on prépare pas vraiment un rôle comme ça, et il a raison dans un sens, parce que en fait les mots nous emmènent immédiatement à l'endroit de l'émotion, donc il y a pas grand chose d'autre à penser, je veux dire, c'est évidemment un sujet totalement bouleversant. Après, moi, mon personnage, c'est voilà, le film est construit comme ça parce que c'est aussi ça s'est passé comme ça dans la réalité. Il y a d'abord une personne, puis une autre, puis c'est un effet domino, en fait. Et c'est ce que François...
C'est aussi une progression. On va vers le personnage le plus fracassé. Oui, par rapport à ce que disait Josiane Balasco tout à l'heure sur la progression du film.
Qui permet d'ouvrir puisque c'est le seul dont les faits sont pas prescrits.
Oui, c'est vrai.
Qui permet d'ouvrir, de faire une déposer plainte et...
D'ailleurs, quand vous êtes confronté, parce que vous allez finir par être confronté à ce prêtre.
Ouais.
Vous racontez que vous aviez eu le César 3 jours avant.
Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez...
C'était une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que moi, normalement, j'arrive, bonjour, salut, ça va, et tout ça, et puis on tourne. Puis là, j'arrive et tout le monde dit, alors? Non, mais j'exagère, en fait, personne...
On l'a charrié beaucoup.
Personne ne m'a charrié, personne ne m'a renvoyé ça, ils ont été hyper classe. Mais moi, à l'intérieur, j'ai une grosse scène, genre grosse chialade aujourd'hui et tout. Et j'ai dit, tout le monde va être là, alors le petit, il paraît que c'est le meilleur maintenant. Donc vas-y, montre-nous ce que t'as dans le ventre, mon gars. J'étais un peu... voilà. Et à la fin de la journée, j'ai dit à François, ça va, tu trouves pas que depuis que j'ai eu un César, je suis devenu mauvais? Il m'a dit, écoute, pas encore.
Vous avez beaucoup consulté le site. D'ailleurs, est-ce que vous avez rencontré le vrai protagoniste?
Oui, alors on les a rencontrés, mais à la projection d'équipe. On les a rencontrés après, puisqu'on voulait vraiment éviter le côté biopic.
Imitation.
Genre, on essaye de les imiter. Tout ça, c'était vraiment pas la question. On les a rencontrés après, ouais.
Et c'est là que vous intervenez aussi, Josiane Balasco, dans le rôle donc de la mère d'Emmanuel. Peu de scènes, je le disais, mais des moments clés avec ce défi de donc tout de suite d'exister comme vous savez le faire. D'ailleurs, François Ozon dit elle a accepté un rôle secondaire.
Il y a pas de rôle secondaire. Simplement, j'avais envie de faire partie de la famille de François. Et quand il m'a proposé, parce que j'aime ses films, mais quand il m'a proposé de jouer ça, j'ai dit ok, je vais trouver une nouvelle famille. On va dans un nouvel univers. Et ça, pour un acteur, c'est formidable d'avoir quelqu'un qui te dirige différemment, qui travaille différemment. François, à la fois, il est metteur en scène, à la fois, il est derrière la caméra. Donc, il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui font ça, qui sont à la fois...
Ah, mais c'est important qu'ils cadrent en même temps.
Ah bah, ouais. Ça change tout. Mmh.
Ça change.
D'abord, bah, on va vite parce qu'il travaille très vite et très précisément.
Mais ce qui est bien, c'est que quand il, ce qui change, c'est qu'il disparaît quand on dit action, puisqu'il devient cadreur.
Oui.
Donc pour nous, il disparaît. Il y a, et en même temps, il est très proche puisque dans son cadre, il nous voit de très près. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup de ça, quoi.
C'est tourner vite, fait, c'était pas forcément votre idéal de, d'acteur, François Martoret.
Non, je suis un peu lent. Et
la 17e.
C'est-à-dire, c'est-à-dire.
Non, mais j'ai l'esprit d'escalier. C'est-à-dire que je ne caricaturerai pas certains camarades qui, deux jours après, se disent oh, merde, j'aurais dû jouer ça comme ça. Mais moi, c'est plutôt trois jours d'ailleurs. Mais c'est vrai que je suis un peu lent. Mais cette sorte de dynamique que François insuffle à son équipe, et effectivement, ce que dit Eric est très juste, cette sorte de complicité différente qu'offre le fait qu'il soit derrière la caméra. Finalement, cette intimité imaginaire différente est très bonne. Et puis surtout, bah, c'est vrai que dans ce travail qu'il propose est, va vite. Donc, j'avais même pas à réfléchir. Donc, c'est peut-être ça le bénéfice finalement.
Je crois que c'est très important ça, parce que moi, c'est exactement ce point-là. C'est on n'a pas le temps de réfléchir. Et alors après, ça dépend, tous les comédiens sont différents, mais cette idée d'intellectualiser les choses, parfois, je suis pas sûr que ce soit le meilleur chemin. Donc là, en effet, on n'a pas le temps. On y va, et puis aussi, il y a un regard d'une vraie bienveillance qui fait qu'on a le droit de rater, on se sent pas jugé. Il va pas dire, dis donc là, tu fais quoi là, c'est n'importe quoi, c'est pas ça qu'il faut jouer. Non, il y a pas de problème à rater.
Il aurait dû quelques fois, peut-être.
Et je pense qu'il aurait dû, mais bon.
Surtout avec Melville.
Mais vous, Josiane Balasko, quand vous tournez un film comme réalisatrice, pareil, vous allez vite comme ça, vous...
Non, parce que moi je joue dedans, alors c'est plus...
Oui.
C'est... Quand je tournais, je jouais souvent.
Ouais.
C'est... Mais j'aime bien, je pense que dans la comédie déjà, et je pense qu'il a un rythme de comédie, osons, finalement, de tourner vite, dans le sens. Et c'est bien, parce que ça garde de l'énergie, ça recharge l'énergie des acteurs au fur et à mesure, parce qu'il faut qu'ils soient sur le coup. Non, tourner, je dis pas tourner en accéléré, mais avoir l'énergie de ne pas prendre 3 heures entre chaque plan, ça c'est formidable. Donc, on ne perd pas l'énergie, on est toujours chargé.
Et puis comme il fait beaucoup de films, c'est vrai qu'il y a un côté quotidien en fait. On fait des films comme on va au travail, et puis je trouve qu'il va vite comme ça, ça c'est bien.
Ça crée une mobilisation de l'équipe entière qui est bonne.
Oui. Voilà. Et puis du coup, au final, comme il va très vite, on finit souvent... On finit souvent en avance, mais c'est vrai qu'il y a quand même, quand on est sur un plateau de François, on se dit que la vie est toujours plus importante que le cinéma.
Ah oui.
Et on tourne comme ça, moi je trouve. Ouais. Ah oui.
C'est votre impression aussi, Swan? Allô.
Ah bah oui, complètement. Mais il y a un truc. En effet, j'ai jamais attendu un quart d'heure entre deux prises. On termine tous les jours 2 heures en avance. On a fini le film 8 jours en avance. Donc
bonheur,
effet, comme la vie
heures.
Est plus importante que le cinéma. Je suis d'accord avec Eric. Bah du coup, on a gagné 8 jours sur notre vie quand même. Donc,
ah oui.
C'est pas mal.
On va écouter une scène entre vous et Josiane Balasko. Vous nous direz après. Tiens, combien de prises et combien c'est parce que c'est une scène assez capitale.
Je suis allé voir mon père.
Pourquoi faire ?
Pour lui parler.
Et alors ?
Il comprend rien, il dit qu'on a tous nos problèmes.
Bah, tu vas pas le changer. Nicole était là ?
Ouais. Maman, tu te souviens ? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit qu'après, elle m'avait embrassé.
Oui, je me souviens plus vraiment.
Pourquoi t'avais rien dit ?
Je pouvais pas imaginer une chose pareille. Souviens-toi, à la sortie de l'église, il embrassait tous les enfants. Je pouvais pas me douter qu'il te... Je m'en veux aujourd'hui, tu sais.
Alors, cette scène, Swan Harlow et Josiane Balasko... Il faut installer tout de suite l'émotion. Comme je disais, vous aviez peu de scènes, donc celle-là est assez capitale.
Justement, c'est des scènes où il y a beaucoup de choses comme ça profondes à jouer qui sont finalement plus faciles.
Oui.
Ah oui.
Oui. Que de jouer une apparition dans un. Voilà. Pour moi, c'était plus difficile de jouer la première scène où je dis moi, je veux bien le faire. Parce qu'il y a
dans une réunion.
Oui. Parce que vraiment, il y a pas beaucoup de possibilités d'exister que d'avoir une scène où on a le temps d'exprimer des sentiments. Enfin, quand on sait un peu jouer. Si on a du mal, on a du mal. Mais...
C'était facile pour nous. Hein, ça.
Non, c'est pas. Bon, après, on l'a pas tourné qu'une seule fois. On a refait. Je sais pas combien de fois on a tourné. Pas énormément, parce qu'en général, il ne fait pas non plus 10 prises ou 15 prises. Mais. D'avoir
c'est plus facile d'être dans la gravité, ouais, la profondeur que la banalité, quoi.
Oui. C'est facile d'être dans l'émotion. Oui. C'est sûr. Mmh. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean?
Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que. L'expert. En fait, alors, déjà, souvent, les scènes les plus. Qui ont l'air comme ça d'être les plus compliquées, en fait, sont peut-être les moins compliquées, parce qu'on vient juste comme ça, on s'est juste assis à table et on a dit le texte. Mmh. Et il y a vraiment ce truc, encore une fois, les mots, quoi. Les mots disent ce qu'il y a à dire, et puis, je sais pas, alors après, Josiane dira certainement le contraire, mais moi je trouve que ça s'est assez bien passé entre nous. Non, mais il y a quelque chose, voilà, tout de suite, parfois, quand on joue ensemble, il y a quelque chose qui se passe ou qui se passe pas. Et puis, ce qu'on n'entend pas à la radio, c'est quand même, à ce moment-là, on est en train de bouffer une religieuse. Et ça donne quand même une dimension très forte à la scène.
C'est un accessoire.
Ça commence par je t'ai ramené une religieuse, oui, tu l'as bien mérité.
Il m'a ramené des gâteaux parce que d'un seul coup, je vais m'impliquer dans cette association, dans ce mouvement, et je vais répondre au téléphone. Moi qui étais plutôt introvertie, qui était comme une petite souris, d'un seul coup, elle va trouver sa place, elle va retrouver aussi son manière de se racheter.
Oui, bien sûr. Beau personnage, grand film et grands acteurs.
Justement, un mot sur Bernard Verlet, qui joue le père Prénat, dont on n'a pas du tout parlé, et qui est dans ce rôle difficile, on va dire, pour lui, certainement extraordinaire.
On va voir ce qu'en pense la Berlinale, puisque c'est ce soir le palmarès, avec mademoiselle Juliette Binoche comme présidente du jury. On se retrouve pour les sorties de la semaine, après Angèle avec Roméo Elvis, tout oublié.
Je reconnais évidemment l'extrême violence subie par les victimes. Mais je tiens à redire que personnellement, je n'ai jamais, jamais couvert le moindre acte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Dans certains, peut-être pas, c'est à la justice de se prononcer.
Excusez-moi, vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire ? Grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits ?
Oui, c'est-à-dire... Du point de vue juridique, la majorité des faits sont prescrits.
Oui, mais grâce à Dieu, ça veut dire heureusement.
Oui, je comprends, mais c'est juste une erreur de mon langage, je le reconnais volontiers.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois, je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. Bonjour. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'il t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout oublier, pour y croire,
jour. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être
heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais.
On va commencer pour les sorties par ils sont en train de danser, bon bref, par Vice d'Adam McKay, un portrait survitaminé de Dick Cheney, ex-vice-président américain qui a largement redéfini sa fonction, et notamment dans la décision d'attaquer l'Irak, ou comment raconter ce chapitre majeur de l'histoire américaine avec humour, acidité et intelligence, entre farce et tragédie, sans oublier le rôle majeur de la femme de Dick Cheney, véritable Lady Macbeth. Elle est incarnée par Amy Adams, aux côtés donc de Christian Bale et de Steve Carell. Sacré film. Le silence des autres, je me suis trompé sur le titre au
oui,
début.
Oui, les autres, pas les morts.
Le silence
oui.
des autres, pardon. 1900, ça va vous intéresser, Jonathan. 1977, deux ans après la mort de Franco, dans l'urgence de la transition démocratique, l'Espagne vote la loi d'amnistie générale qui libère les prisonniers politiques, mais interdit également le jugement des crimes franquistes. Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 80 sont alors passées sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10 000 km des crimes commis en Argentine pour rompre ce pacte de l'oubli. C'est un peu aussi la libération de la parole.
Ah oui, oui, oui. Et c'est un superbe documentaire produit par les frères Almodovar. Il oui. faut le souligner, le signaler. Ce ne sont pas eux qui réalisent, mais il y a vraiment là un propos très très beau, partant de cette loi assez incroyable qui, au fond, amnistiait tout le monde, c'est-à-dire les exactions franquistes et surtout aussi en face les morts républicains qui n'avaient donc rien à voir, en quelque sorte les bourreaux et les victimes. Voilà ce qu'amnistiait cette loi un peu scélérate. Et franchement, le portrait qui est fait de tous ces gens qu'on retrouve, de ces mères qui attendent qu'on leur rapporte le cadavre de leur fils pour lui donner une sépulture décente, enfin, tout ce mouvement de mémoire, toute cette reconstruction d'un passé dont on ne doit pas être évidemment dont on ne doit pas rougir quand on a été en quelque sorte du bon côté, c'est un très très beau documentaire dont l'utilité est évidente.
Éric Caravaca, votre côté espagnol, réagit à ça?
Ben oui.
Vous connaissiez ce...
Oui, oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, je connaissais tout
cette histoire,
ouais. Bien sûr. Oui, oui.
Le silence des autres, c'est le titre du film.
Deux fils, premier film, premier long de l'acteur Félix Moati. Joseph et ses deux fils, Joachim et Yvan, formaient une famille très soudée, mais Yvan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu'il voit s'effondrer, car son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père, c'est Poulvord, a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle d'un écrivain raté. À lire les critiques plutôt positives, j'ai dû passer à côté de ce premier film inachevé, maladroit, qui survole les intrigues sans les résoudre, plus intéressé à capter les états d'âme de ses protagonistes. Cela ressemble à du De Pléchin, mais sans De Pléchin et la profondeur, avec une idée de cinéma très ambitieuse, c'est vrai, bien écrit, bien joué, mais sans écorcher vraiment, sans fouiller plus dans les failles de ses personnages. C'est un défaut de maturité sans doute. Alors on va dire qu'on attend la suite du parcours de Félix Moati. Dans la terrible jungle de Caroline Capel et Ombline Lay, filmée à l'Institut médico-éducatif La Pépinière dans le Nord, le quotidien d'adolescents handicapés où la musique joue un grand rôle.
Oui, les chansons notamment, c'est peut-être l'aspect en tout cas qui moi m'a personnellement le plus intéressé, comment en quelque sorte les chansons, ça va aussi bien de la Marseillaise que la chanson d'Henri Salvador qui donne son titre au film Dans la terrible jungle, là, vous vous souvenez, le lion, tout ça, voilà. Comment la chanson est en quelque sorte un peu thérapeute, comment elle peut aider à mieux vivre quand on est dans ces handicaps-là, qui sont évidemment lourds, bien sûr, on le voit au quotidien. Alors après, le propos des deux cinéastes qui font notamment rejouer des scènes, moi, et donc qui fait tout le film est entre documentaire et fiction, me pose un peu plus de problèmes, et j'ai ressenti une sorte de malaise par rapport à certaines scènes justement jouées, rejouées, peut-être déjouées. Et c'est là, à mon sens, la limite de ce film qui s'appelle « Dans la terrible jungle ».
Un autre premier film, « Les drapeaux de papier ». Le garçon, quand il l'a tourné, avait 18 ans. Il en a 19 maintenant. Il s'appelle Nathan Ambrosioni. Bon, on n'est pas dans le Guinness Book. Je sais qu'on l'a comparé à Dolan et d'autres. Bon. Mais lui n'a pas l'ambition scénaristique d'un Félix Moati. Son histoire est simple. Un garçon, Guillaume Guix, sort de prison après 12 ans, retrouve sa jeune sœur et tente de se réinsérer malgré la grande colère qui l'habite. Résultat, un pur geste de cinéma au présent. Heureusement, pas de flashback. On a déjà vu des parcours de réinsertion, c'est vrai. Mais celui-là décrit de façon très juste les rapports frères-sœurs, installe les silences, distille l'émotion et révèle aussi une grande actrice de demain. Elle s'appelle Noémie Merlant.
Oui, je suis d'accord sur ce que vous dites sur les qualités du film, et singulièrement la distribution, les acteurs, mais franchement, au bout d'un moment, quand même, on se trouve, enfin moi je me suis trouvé face à des ectoplasmes, la sœur empathique, le père emmuré dans son silence, le frère bourru mais sympathique au bout du compte. Je trouve quand même qu'il y a un manque de scénario, il y a un manque de chair, il y a un manque d'incarnation qui fait qu'au bout d'un moment, alors effectivement on a dit, ça c'est incroyable, Malick et Dolan, je comprends pas comment on peut alourdir à ce point-là la barque d'un jeune cinéaste en lui disant qu'il ressemble à du Malick et du Dolan. Mais c'est terrible, c'est un enterrement de première classe. Alors oublions ces cinéastes-là, et faisons en sorte, j'espère qu'il fera lui en sorte d'être un peu plus attentif aux histoires qu'il a envie de raconter.
Non, c'est un vraiment très joli premier film, sensuel et...
On y reviendra.
Et très senti. Un ange de Cohen Mortier avec Vincent Rottier et Fatou Ndial. Un sportif célèbre, il est cycliste professionnel, tombe amoureux d'une prostituée lors d'un voyage au Sénégal. Lorsqu'il trouve la mort dans les circonstances douteuses, elle est arrêtée malgré son innocence. C'est inspiré d'une histoire vraie.
Ah, il est inspiré d'une histoire vraie. Ça. Bon, enfin, c'est pas aujourd'hui qu'on devrait le lire, mais enfin, il faudrait pas toujours que ça soit la rustine sur une mauvaise roue. Très, très franchement, là, tout est étrange. Alors, les couleurs sont étranges, les atmosphères sont étranges, les sentiments sont étranges, les figures, les visages sont étranges, tout devient tellement glauque que, personnellement, je n'ai eu aucune envie de rentrer dans ce film, d'être au plus près de ces personnages. Alors, il y a un baroque parallèle entre le cyclisme et la prostitution. Je pense que ça va faire hurler les amateurs de La Petite Reine, mais très très franchement, je n'ai rien compris à l'esthétique d'abord de ce film et à son propos ensuite.
Long Way Home, encore un premier film signé Jordana Spiro sur l'Amérique, comme on dit, des laissés pour compte. Elle, Angel, à 18 ans, sort de prison pour petite délinquance avec l'idée, l'obsession de venger sa mère assassinée quelques mois plus tôt. Elle rejoint sa petite sœur qui vit dans une famille d'accueil à Philadelphie. Besoin de vengeance d'un côté, grand besoin d'amour de l'autre, le film les suit dans leur périple chaotique. Si la dramaturgie est prévisible, elle est vite, et c'est bien, tant le sujet est tentant, tout pathos, tout altermoiement, grâce essentiellement à ces deux jeunes actrices, Laurent, leur force et leur énergie.
Ah bah oui, mais voilà le vrai premier film de la semaine qui s'intéresse à l'histoire d'une sortie de prison. Voilà, là c'est un film qui effectivement me nourrit plus que le film français précédent dont nous avons parlé, parce que franchement, ces deux sœurs, elles sont d'abord merveilleusement incarnées, et puis c'est ça l'histoire du film, vraiment, c'est leur retrouvaille, leur rencontre. Il y en a une, Abby, qui chante et l'autre pas. Abby qui rit, Angel qui pleure, mais progressivement, elles vont se retrouver, elles vont être ensemble. Et ça, c'est vraiment un très très beau processus de film, dans une très très belle réalisation, attentive au paysage notamment.
On termine par une reprise du premier film de Bertolucci qui s'appelle Les Recrues.
Et oui, film, il a 21 ans, Bertolucci, quand il se fait ce premier film qui s'appelle La Camarde, c'est-à-dire là, hein, la mort en italien. Pourquoi ça s'appelle Les Recrues en français? Je n'ai toujours pas compris pourquoi. C'est sur une idée de base de Pasolini, mais on est beaucoup plus proche ici d'Antonioni que de Pasolini. C'est un beau, très très beau premier film.
L'un de vous quatre n'a jamais joué avec Chabrol? Vous l'avez rencontré? Non, personne. Non. François Martorey non plus?
Je l'ai rencontré, mais...
Et oui, alors documentaire, voilà, dimanche soir, soyez devant Arte, parce que vous pourrez revoir ou voir juste avant la nuit, chef-d'œuvre, la cérémonie, chef-d'œuvre, et entre les deux, un documentaire signé Cécile Mestre Chabrol. Chabrol, l'anticonformiste, tout est presque dit, c'est un régal de retrouver l'œil malin, amusé de Claude Chabrol.
Les cadeaux maintenant, on va commencer par vous, Josiane. Oui. C'est mon choix, c'est Sophia. C'est le premier film de Maryam Mbarek. Je ne comprends pas que le public soit passé à côté d'un tel film. Merci. Un film qui raconte à partir d'un déni de grossesse toute l'hypocrisie d'une société, la société marocaine, en même temps que la condition de la femme, et encore en même temps un thriller à partir d'un postulat apparemment simple, une ramification de questions. de plus en plus subtil, un peu comme dans un film iranien. D'ailleurs, je placerai Myriam M. Bayek vraiment à la même hauteur qu'un Asghar Farhadi. C'est un grand portrait de femme qui se révèle bien moins naïve qu'on ne l'imagine. Donc c'est pour vous, Josiane Balasko.
Merci, il est sorti dans le pays.
Il est sorti.
Au Maroc.
Il est... Ah
non, c'est ça le problème. Oui. Est-il sorti au Maroc?
Oui, je crois qu'il est sorti au Maroc. Oui,
bonne question. Et il sort en tout cas en DVD chez Memento. On l'a pas dit pour nos éditeurs, mais on le signale.
Sophia.
Voilà, merci. Pour vous, François Martouret, je vous sais acteur, mais je vous sais aussi un citoyen attentif. Alors, ce documentaire sur Mandela, génial. Formidable, de Gilles Porte, sorti cette année aux éditions Arte, désormais le DVD. Et si vous ne l'avez pas vu en salle, vous verrez, c'est un magnifique travail documentaire sur cette mémoire de l'Afrique du Sud. Voilà.
Oui, mais je connais
pour
bien Gilles Porte.
Et... Merci. Ah oui. Laurent, pour Eric Caravaca.
Pour Eric Caravaca, eh bien, on a trouvé un livre qui s'appelle Jamais plus, qui va bientôt sortir début mars aux éditions Pygmalion. Oh, l'auteur, c'est Josiane Balasko.
On vous l'offre. C'est pas sympa, alors. Eric c'est pas sympa parce qu'il avait envie d'un DVD, comme tout le monde.
Eh ben, il aura un beau livre. Voilà, c'est tout. Qui sera peut-être dédicacé si son auteur veut bien lui faire à la fin de l'émission.
Et Jamais plus, c'est un titre inspiré d'un poème d'Edgar Allan Poe, s'il vous plaît.
Même, s'il mais vous plaît.
Oui. Il y a combien de pages?
Oui, ça va, tu peux lire en suivant du doigt. Tu liras vite.
Ce sont des nouvelles. Et pour vous, Swann Arlo, je vous sais attentif aux formes nouvelles de cinéma de Michael Dudok de Witt qui a fait La Tortue Rouge. Je ne sais pas si vous avez vu ce très beau dessin animé.
Bien sûr, ouais.
Et voilà, et ben il sort un livre chez Capricci autour de l'élaboration de ce chef-d'œuvre de l'animation. Super. On vous l'offre avec plaisir.
C'est merci. Très gentil, merci.
La semaine prochaine, nous ferons une émission spéciale César le lendemain. Vous avez tous voté au César?
Oui.
Oui.
J'ai pas encore fini.
Josiane. Vous ne votez pas?
Non, je vais arrêter, je crois. Non, je vous dis, je vais arrêter parce que je reçois, je paye, on paye chaque année, ce qui est normal, une contribution pour avoir les. Et on en regarde très peu, je les rends. Et je crois que je le dis, comme ça ils seront au courant. Je crois que je vais arrêter de payer, je crois que je vais arrêter de voter aussi.
D'accord.
Voilà, d'une manière générale ou juste pour les Césars?
D'une manière générale. Ah pour les Césars.
Pour les Césars.
Bah oui, parce que finalement, qu'est-ce que je fais? Je vote pas au premier tour, au deuxième tour, je dis putain, est-ce qu'il reste des copains avec qui je peux voter? Donc il n'y a pas de. C'est pas la peine, je suis une très mauvaise votante.
Grâce à Dieu, croisons les doigts, grâce à Dieu, le film de François Ozon sorti mercredi prochain. Merci à tous les quatre, on vous donne les clés du générique. C'est à vous.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Céline Hillard.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, François Martouret, j'y étais.
Et moi, Josiane Balasko, j'y étais.
Et moi, Swann Arlo, j'y étais aussi.
Et moi, Eric Caravaca, j'y étais aussi.
Ah bon?
Oui. Mais alors, là, t'as bien fait. Là, tu l'as fait un peck.